Vous écoutez On lit pour vous.
Un programme pour mieux protéger les enfants ayant une déficience intellectuelle, un texte de Jessica Nadeau, paru le 25 septembre 2025 dans Le Devoir. Le Centre Marie-Vincent, qui vient en aide aux enfants victimes de violences sexuelles, lance un tout nouveau programme de prévention pour les enfants ayant une déficience intellectuelle qui sont encore plus à risque d'être victimes d'agressions. Au Québec, une fille sur cinq et un garçon sur dix rapportent avoir vécu une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans, selon les statistiques du Centre Marie-Vincent. Et ce nombre serait encore plus grand chez les enfants qui ont une déficience intellectuelle, selon Nadia Tranchemontagne, chargée de projet et formatrice à Marie-Vincent. Citation. Les enfants ayant une déficience intellectuelle ont un risque de 2 à 8 fois plus élevé d'être victimes de violences sexuelles par rapport à leur père au développement cognitif typique, affirme-t-elle. Les enfants autistes présentent également une vulnérabilité accrue à la violence sexuelle, avec un risque de 3 à 4 fois plus élevé que leur père neurotypique. Fin de citation. Madame Tranchemontagne se base sur une revue de la littérature effectuée par l'équipe de Marie-Vincent. Citation. Ces chiffres-là sont énormes et ce qui fait peur, c'est que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce ne sont que les personnes qui ont dévoilé cette violence-là ou qui en ont été témoins, précise-t-elle. La violence qui n'a jamais été vue ou dévoilée, elle ne rentre pas dans ces statistiques-là. Fin de citation. Plusieurs choses peuvent expliquer cette prévalence plus importante, explique Nadia Tranchemontagne, qui rappelle que les défis de communication peuvent rendre le dévoilement plus difficile chez ces enfants. Citation. Les agresseurs peuvent avoir tendance à cibler ces enfants-là à cause de leur vulnérabilité. Fin de citation, dit-elle. Ils ont également une proximité plus grande avec les adultes, dont ils sont parfois dépendants pour les soins d'hygiène et de santé. Citation. Mais, ultimement, les études notent qu'un des facteurs principaux de leur vulnérabilité, c'est le manque d'éducation à la sexualité. Fin de citation, explique Madame Tranchemontagne. Citation. On a tendance à penser que parce qu'ils ont une déficience intellectuelle ou parce qu'ils sont autistes, ils n'ont pas, au moins, de sexualité. Mais c'est tout à fait faux. Les enfants qui ont besoin de soutien particulier ont les mêmes besoins. C'est la manière d'y répondre qui va changer. Il faut vraiment faire de l'éducation sexuelle avec ces enfants-là et peut-être encore plus qu'avec les autres. Fin de citation. Besoin criant. C'est là que le nouveau programme d'éducation et de prévention voué aux enfants ayant besoin de soutien particulier prend tout son sens parce que, justement, des outils adaptés pour ces enfants, il n'y en a pratiquement pas. Le besoin, il est criant, assure Nadia Tranchemontagne. C'est d'ailleurs à la suite de demandes du terrain que le Centre Marie-Vincent a mis sur pied ce nouveau programme, dévoilé jeudi. En effet, lorsque les équipes donnaient de la formation en prévention pour les petits de 0 à 5 ans dans les CPE avec le programme Lanterne, ils avaient souvent un écho indiquant que ce n'était pas adapté aux enfants qui ont besoin de soutien particulier et qui sont moins verbaux. Citation. C'est un besoin qui nous avait été mentionné à maintes et maintes reprises. Fin de citation, assure la chargée de projet. Le programme VOIES, V-O-I-E-S, est donc une adaptation du programme de prévention initiale qui intègre des outils mis au point spécifiquement pour la clientèle des 4 à 12 ans ayant une déficience intellectuelle légère, de l'autisme avec des besoins légers ou des troubles du langage. Le programme, qui a été développé sur plus de 3 ans pour bien saisir les besoins du terrain et les meilleures pratiques, est testé depuis le printemps dans 6 milieux œuvrant avec des enfants ayant des besoins de soutien particulier. Et les échos sont très positifs, assure la responsable du projet. Citation. Jusqu'à maintenant, ce qu'on entend, c'est que oui, c'est utile et oui, c'est pertinent. Fin de citation. En plus du programme Voix, le Centre Marie-Vincent inaugure également le programme Boussole qui s'adresse aux intervenants des milieux communautaires et du loisir ainsi qu'aux personnes qui travaillent dans les camps de jour et les camps de vacances pour faire de la prévention auprès des enfants de 6 à 12 ans. Besoin d'aide? Si vous êtes victime de violences sexuelles, vous pouvez contacter un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, CALACS, près de chez vous ou appeler InfoAide Violence Sexuelle au 1-888-933-9007. C'était un programme pour mieux protéger les enfants ayant une déficience intellectuelle, un texte de Jessica Nadeau, paru le 25 septembre 2025 dans Le Devoir.
Importante hausse de la prise d'antidépresseurs chez les jeunes depuis 2015. Un texte de Valérie Gendron, paru le 24 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à devoir composer avec des problèmes psychologiques. Une demande d'accès à l'information nous a permis de constater que la prise d'antidépresseurs a plus que doublé dans la région. Selon les données de la RAMQ, en 2024, 703 jeunes de 13 à 17 ans ont pris des antidépresseurs en Mauricie et au centre du Québec, comparativement à 290 en 2015. Psychologue à la Clinique d'évaluation de psychologie et d'intervention en santé mentale de Trois-Rivières, la docteure Amélie Saussier n'est pas surprise de cette statistique. Il y a une hausse de la détresse chez les jeunes. Ce qu'on voit le plus, c'est une hausse des troubles anxieux et du trouble de l'humeur. Évidemment, la médicamentation la plus indiquée dans les cas où ça le nécessite, ce sont les antidépresseurs, relate-t-elle. Elle tient toutefois à préciser que les médecins font du mieux qu'ils peuvent et ne considèrent pas qu'ils sont la source du problème. Des adolescents questionnés sur le terrain, dont on doit conserver l'anonymat étant donné leur âge mineur, ont affirmé être plus anxieux à cause des bouleversements sociaux et des défis à l'école. Deux jeunes nous ont d'ailleurs partagé prendre des antidépresseurs. Un troisième jeune, qui a récemment cessé toute médication, croit qu'il faut travailler le problème en profondeur. C'est sûr que ça va aider, ça va mettre un pansement. Mais après ça, il faut régler ce qui se passe à l'intérieur sans avoir à prendre une pilule, indique-t-il. La travailleuse sociale Marie-Pierre Tessier-Junot, une collègue de la docteure Amélie Saussier, remarque qu'il y a une certaine intolérance à l'incertitude et à l'inconfort chez les jeunes. Manque de ressources et délais plus longs. Cette montée de la souffrance s'attribue à plusieurs facteurs, dont les longs délais pour obtenir des soins psychologiques, selon la psychologue de Trois-Rivières. Quand je suis arrivé en pédopsychiatrie en 2011, le jeune qui était évalué par un pédopsychiatre pouvait obtenir un suivi en psychothérapie en 1 à 2 semaines. On n'avait jamais vraiment de liste d'attente. Toujours selon ses observations, en 2023, le temps d'attente était beaucoup plus long, un contexte qui pousse à une prise rapide de médicaments. C'est possible qu'en attendant, faute de mieux, on essaie de baisser le niveau des symptômes. Mais ça ne fait pas tout le travail. Ça ne traite pas en profondeur les causes à l'origine du trouble anxieux et de l'humeur, explique la docteure Saussier. Mme Saussier a également constaté qu'au cours de cette même période, le nombre d'effectifs en santé mentale a diminué graduellement. Résultat, plus de jeunes ont besoin d'aide, mais moins de spécialistes peuvent y répondre. « Il nous manque des bras », dit la docteure Amélie Saussier. Les parents ont aussi un examen de conscience à faire, selon les intervenantes. Sans remettre en cause leur implication, elle remarque aujourd'hui une tendance sociale à vouloir supprimer toute forme de stress, alors que ces émotions sont inhérentes à la nature humaine. Mme Tessier-Junot recommande aux parents de prendre un pas de recul et de se poser la question suivante. Est-ce que c'est mon inconfort à moi qui a de la difficulté à conjuguer avec les émotions négatives de mon enfant, ou dans le fond, ces situations stressantes que vit mon enfant sont normales? L'influence délétère des écrans. Sans surprise, les écrans contribuent eux aussi à augmenter le stress et les symptômes dépressifs chez les jeunes. Tout comme les constats de la Commission spéciale sur les écrans au Québec, la psychologue remarque que l'utilisation du cellulaire ou de toute autre plateforme numérique dès l'âge de 2 ans a des répercussions significatives sur le développement de l'enfant. Il y a moyen de comprendre rationnellement pourquoi les écrans ont cet effet-là sur l'anxiété, et je trouve que c'est le manque d'explication qui est déplorable, ajoute-t-elle. Amélie Saussier reconnaît néanmoins que les écrans ont leur utilité et qu'ils sont importants dans la vie des jeunes. Elle considère qu'il faut toutefois trouver un équilibre pour réduire les impacts négatifs de cette technologie. Approche basée sur la nature. Pour contrecarrer les répercussions et réduire le temps d'écran, la Clinique d'évaluation psychologique et d'intervention en santé mentale mise sur des ateliers en nature. Notre piste de solution est de sortir du cadre standard. Aller dehors, amener les jeunes à bouger, à être en groupe pour les amener à développer leur confiance en eux, conclut Mme Tessier-Junot. Bien que les médicaments peuvent, dans certains cas, atténuer la souffrance des jeunes, les intervenantes rencontrées jugent qu'il est essentiel de s'interroger sur la surprescription dans la société. Selon elles, il faut collectivement apprendre à mieux apprivoiser l'anxiété et à privilégier des approches comme la psychothérapie ou les interventions en nature avant de recourir directement aux médicaments. C'était « Importante hausse de la prise d'antidépresseurs chez les jeunes depuis 2015 », un texte de Valérie Gendron paru le 24 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Le programme d'activité PAAL fait le bonheur des enfants handicapés, un texte de Raphaël Simoneau, paru le 27 septembre 2025, sur le site de Radio-Canada. Des jeunes s'impliquent dans le programme d'activité PAAL, une initiative de l'Université de la Saskatchewan, afin de venir en aide aux personnes ayant des incapacités physiques et intellectuelles. Ce programme leur permet de faire des activités physiques et de créer des liens avec des mentors et de nouveaux amis. Carter McLeod, 10 ans, est autiste. Il souffre d'une déficience intellectuelle et d'épilepsie. Sa mère, Marlowe McLeod, a eu du mal à le laisser avec les jeunes superviseurs quand il a commencé à prendre part au programme. La première année que Carter a participé au programme, l'un des superviseurs était déçu qu'il ne progresse pas aussi vite qu'il aurait voulu dans la piscine, raconte-t-elle. Aujourd'hui, Carter peut plonger sous l'eau et attraper des anneaux au fond du bassin. J'ai remercié les superviseurs. Lorsqu'on est parent d'un enfant avec un handicap, on ne voit que les victoires. Ali Jacobi, une autre mère de famille, est du même avis. Son fils, Nash, âgé de 12 ans, est atteint d'une paralysie cérébrale. Il participe au programme depuis 3 ans. Il me demande toujours quand il va y retourner. Et lorsque c'est fini, il me dit toujours qu'il a hâte de revenir, confie-t-elle. Pour Ali Jacobi, ce programme est non seulement nécessaire pour les jeunes superviseurs, mais aussi pour les parents. Cela nous permet d'avoir un peu de répit, et puis, surtout, nous sommes ravis que nos jeunes puissent profiter d'une telle expérience, dit-elle. Elle estime que ce programme peut aussi créer des vocations. Ce que j'aime, c'est que cela peut inciter les superviseurs à apprendre à travailler avec les enfants. Beaucoup d'entre eux se lancent d'ailleurs dans des carrières telles que l'enseignement,
la physiothérapie ou encore l'orthophonie, raconte-t-elle. Un programme encadré par des élèves et des étudiants. Le programme PAAL est entièrement géré par des élèves du secondaire et des étudiants de l'université. Leur rôle est d'accompagner les participants et de s'assurer qu'ils se sentent soutenus dans chaque activité qu'ils effectuent. Ce dispositif a plusieurs objectifs, comme effectuer des mouvements fondamentaux avec le sport, travailler en équipe et créer du lien social. Willow Chow, étudiante en kinésiologie à l'Université de la Saskatchewan, y participe pour la première fois cette année. Elle apprécie ce travail, surtout à cause de la relation qu'elle tisse avec les jeunes. Les enfants nous serrent très fort dans leurs bras, comme s'ils ne voulaient plus nous lâcher. Cela illumine vraiment ma journée de venir ici. Olive Watts a récemment reçu son diplôme du Collège Evan Hardy de Saskatoon. Elle travaille pour le programme depuis 2 ans. Elle apprécie surtout le fait d'être au contact des jeunes. Il y a quelque chose de vraiment spécial lorsqu'on rend un enfant heureux, surtout lorsqu'on sait qu'il va peut-être à l'école et qu'il n'est pas toujours traité comme il le devrait, dit Olive Watts. L'épanouissement et le sourire des enfants sont parmi les raisons qui ont poussé Kate Edelbaugh, élève en 12e année, à rejoindre le programme. Elle fait partie de l'équipe des superviseurs et veille à ce que tous passent un bon moment lors des activités sportives. En travaillant ici, je reviens à mon enfance comme tous ces jeunes, se réjouit-elle. Le programme PAAL propose plusieurs activités, dont une destinée aux jeunes âgés de 5 à 18 ans, une autre pour les adultes, ainsi que des camps d'été. C'était le programme d'activité PAAL fait le bonheur des enfants handicapés, un texte de Raphaël Simoneau, paru le 27 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Remis d'une intoxication au mercure, Nicolas Guy Turbide est comme un poisson dans l'eau. Un texte de Kevin Breton, paru le 26 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Le double médaillé paralympique Nicolas Guy Turbide ne se sentait pas dans son assiette depuis plusieurs années. De la fatigue excessive, des douleurs chroniques, même des pertes de mémoire à court terme. Après des années de questionnement, il a finalement trouvé la source du mal qui l'affligeait. Et celle-ci se trouvait justement dans son assiette, en partie. Ça fait plusieurs années que ça dure. Je dirais que ça a commencé avant le COVID-19, autour de 2018 ou 2019, a-t-il confié en entrevue à Radio-Canada Sport de Singapour, où il se trouve pour les championnats du monde de paranatation. Ça faisait des années qu'on cherchait à trouver la source de mes problèmes physiques. Je n'avais aucune concentration, de l'hypersensibilité au son et à la lumière, une intolérance aux changements de température, de grosses migraines, des pertes de mémoire à 28 ans. Ça faisait peur quand même un peu, surtout que ma mémoire a toujours été une force pour m'aider à compenser mon handicap visuel. Et finalement, on m'a diagnostiqué une intoxication au mercure. Une condition fréquente chez les soudeurs, les mineurs ou les peintres en bâtiment, 3 emplois que n'a jamais occupé le diplômé en planification financière de l'Université Laval. C'est fréquent aussi chez les pêcheurs, ceux qui mangent beaucoup de poissons, indique toutefois Nicolas Guy Turbide. Je mangeais beaucoup de thon rouge, des poissons qui sont plus à risque d'être contaminés au mercure. Peut-être 2 ou 3 fois par semaine, et mon corps ne le métabolisait peut-être pas de la même façon que le reste de la population. C'est l'explication qu'on lui a donnée et qui a été confirmée par un test par la suite. Mon corps accumulait le mercure et ne parvenait pas à l'évacuer. Ça restait dans mon système nerveux, explique-t-il. C'est dans ces conditions moins qu'idéales qu'il a néanmoins été sacré champion du monde aux 100 mètres d'eau en 2022, une spécialité qu'il a par la suite dû abandonner avant les Jeux de Paris en raison de la douleur. Le Québécois a rétabli l'épreuve dans son répertoire depuis le début de sa rémission. Nicolas Guy Turbide aurait pu ressentir une grande frustration après ce diagnostic tardif, sachant que les symptômes ont assurément nui à ses performances des dernières années. Mais il a accueilli la nouvelle avec soulagement. « Ce qui serait arrivé si j'avais eu le diagnostic plus tôt, c'est juste de la spéculation. C'est sûr que je me suis posé des questions. Au début, j'étais déçu de ne pas l'avoir diagnostiqué plus vite. Mais je ne m'attarde pas à ça. Je me tourne plutôt vers l'avenir. » Je suis très encouragé de voir mes performances. À Singapour, Turbide a pris le 6e rang au 50 mètres libre S13, avec un chrono de 24 secondes 79 à 1 seconde 48 du gagnant, et a terminé au pied du podium au 100 mètres d'eau en 59 secondes 87 à 0,90 secondes du gagnant. « On voit déjà les effets de la rémission », lance-t-il avec enthousiasme. « Cette semaine, le temps que j'ai enregistré aux 100 mètres d'eau, c'est le 4e ou 5e meilleur temps de ma carrière. C'était 6 dixièmes de mon meilleur chrono à vie. C'est super encourageant. Ça me pousse à regarder vers l'avant. Ça donne une deuxième vie à ma compétition. » Les mondiaux de paranatation se terminent samedi à Singapour. Le Canada a jusqu'ici récolté 11 médailles. La néo-brunswickoise Danielle Doris a notamment brillé avec 3 médailles, une de chaque couleur. Il y a Doris qui est incroyable, et plusieurs jeunes comme Reed Maxwell aussi qui font bien. C'est bon de voir la relève qui arrive, ça nous motive, ça nous pousse. J'essaie d'être le meilleur mentor possible pour eux et d'assurer une certaine continuité au sein de l'équipe, mentionne Turbide. Pour l'instant, l'athlète de 28 ans ne s'avance pas trop loin. C'est une chose à la fois pour l'instant, insiste-t-il. En ce moment, j'ai du plaisir. Je me sens comme un nouveau dans l'équipe. Ça amène une certaine naïveté. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour la suite. On ne sait pas encore si certains symptômes vont persister. Ça prend beaucoup de temps à évacuer le mercure et il faut juste être patient. C'était remis d'une intoxication au mercure, Nicolas Guy Turbide est comme un poisson dans l'eau. Un texte de Kevin Breton paru le 26 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Espoir pour des personnes invalides qui se battent pour leurs prestations de retraite. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 24 septembre 2025 dans Le Devoir. Alors que des retraités québécois invalides croyaient devoir retourner se battre en cours cette semaine pour récupérer des sommes dont ils ont été privés au cours des années, un espoir pointe à l'horizon. Leur avocate a formulé une offre de règlement à l'amiable au gouvernement québécois qui a demandé un report des dates de procès pour l'étudier. Ayant dû cesser de travailler en raison d'une invalidité, 5 Québécois réclament au gouvernement la portion de leur prestation de retraite qui a été coupée au fil des ans. Cette situation a été jugée discriminatoire par le Tribunal administratif du Québec, TAC, rappelle Maître Sophie Mongeon, une des avocates qui les représente. Leur combat initial était dirigé contre une disposition de la loi sur le régime de rente du Québec qui faisait en sorte que leurs prestations de retraite étaient réduites s'ils avaient reçu une rente d'invalidité entre l'âge de 60 et de 65 ans. C'est le cas de ceux qui font partie de la présente poursuite. Ils ont été contraints de cesser de travailler en raison d'un AVC qui a laissé de lourdes séquelles, d'une leucémie lymphoïde chronique, une maladie incurable ou de graves problèmes de santé mentale. La pénalité sabrant leur rente mensuelle est semblable à celle qui est appliquée aux personnes qui prennent volontairement une retraite anticipée. Sauf que dans leur cas, ce n'était pas un choix. Elles sont incapables de travailler. Le gouvernement justifiait sa loi et la dite réduction de prestations en soutenant qu'il devait préserver la pérennité financière du régime de rente du Québec au bénéfice de tous les Québécois. En juillet 2023, le TAC a déclaré que cette pénalité est discriminatoire en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, car elle fait une distinction sur la base d'un handicap. 77 000 personnes possiblement concernées. Depuis, la loi a été modifiée pour refléter ce changement. La pénalité n'existe plus depuis le 1er janvier dernier. La rente de ces retraités sera donc plus élevée à l'avenir. Mais puisqu'ils ont été privés pendant des années de sommes d'argent, ils veulent que celles-ci leur soient payées. Or, le gouvernement du Québec s'est tourné vers la Cour supérieure pour contester la décision du TAC de juillet 2023. Car ce jugement pourrait avoir un impact non seulement sur les 5 contestataires, mais aussi sur toutes les autres personnes qui ont été pénalisées de la sorte, rapporte Maître Mongeon en entrevue. Selon elle, quelque 77 000 personnes pourraient être privées de ces paiements rétroactifs. Ce débat juridique devait avoir lieu durant 3 jours cette semaine à partir de mercredi. Mais vu l'offre de règlement déposée, les avocats du gouvernement ont demandé que ces auditions soient reportées, a indiqué Maître Mongeon. L'offre formulée vise à obtenir un montant forfaitaire pour chacun des retraités visés. Il ne s'agit pas de la pleine rétroactivité et ne représente rien d'extravagant, a-t-elle déclaré, en précisant que la caisse de retraite ne provient pas des impôts des contribuables, mais bien de ce que les travailleurs y ont déposé au cours des années. La pérennité du régime de retraite n'est d'ailleurs pas en danger, selon elle, car son actif net est actuellement de plus de 140 milliards. Un règlement à l'amiable serait bénéfique pour tout le monde, estime l'avocate spécialisée en droit social et en droit du travail. Cela éviterait notamment de possibles appels en cour d'appel et en cour suprême, un processus qui pourrait durer des années. Elle estime que la volonté de régler ce litige semble sincère. Maître Mongeon salue d'ailleurs le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, responsable d'avoir aboli la pénalité, alors que les gouvernements précédents n'ont rien fait, dit-elle. C'était « Espoir pour des personnes invalides qui se battent pour leurs prestations de retraite », un texte de Stéphanie Marin, paru le 24 septembre 2025 dans Le Devoir.